Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Merci beaucoup d'être là. On va passer une belle matinée ensemble. On va tout à l'heure recevoir le célèbre pilote ex-Air Transat, le commandant Robert Piché. Tu sais, on peut peut-être dire au pilote, tu piloteras plus d'avion, mais on peut pas sortir le pilote de l'avion parce que ça a l'air que Robert Piché voyage tellement en ce moment. Il fait quasiment le tour du monde à nouveau, lui qui l'a fait plusieurs fois. On aura l'occasion de faire une entrevue sans filtre avec lui. On va vous demander si vous allez apporter vos propres contenants à l'épicerie. Et quand je dis vos propres contenants, ça sous-entend vos contenants propres à l'épicerie. Il y a plein de questions de salubrité qui se posent. Je sais pas si vous les posez, mais moi, je suis un petit peu dédaigneuse là-dessus. Puis je me dis... Ça peut créer des problèmes. Nous verrons ça tout à l'heure avec une spécialiste qui va nous dire qu'il faut quand même tendre vers le zéro déchet. Mais en première heure d'émission, je voulais à tout prix qu'on parle de famille. D'abord, parce que ça nous donne l'occasion de recevoir François Morency. Salut François.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Et Lise Ravary. Salut Lise.
Allô.
Tous les deux, vous êtes de famille atypique. Puis on pourrait tous dire qu'on vient de famille atypique. Toi, François, parce que d'abord, on regarde tes discussions avec tes parents, puis on oui. dit « drôle de famille ».
En fait, c'est atypique aujourd'hui, c'était oui. typique à l'époque.
À l'époque, tu trouves?
Famille, ben, dans le sens que ça venait, c'était le format traditionnel de l'époque, le père qui travaille, la mère qui reste à la maison avec 4 enfants, chacun avec des tâches définies, chacun gère ses machines dans des zones tracées déjà par... la tradition, si tu veux. Ce n'est plus la tradition maintenant.
C'est plus la cellule nucléaire de la famille traditionnelle, effectivement.
Le fameux « pour le meilleur et pour le pire », là, on reste ensemble. Donc, c'était ça le deal à l'époque. Ce n'est plus ça du tout, mais à l'époque, c'était le deal.
Alors, est-ce qu'on est dans la nostalgie? Parce qu'il faut quand même que je dise au public que ton émission « Discussion avec mes parents » est en nomination comme... choix du public.
Le coup de cœur, oui,
le
de l'année.
Le coup de cœur du public de l'année. Il y a plusieurs autres émissions, dont District 31. Fait que t'es comme... Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de t'en...
Ben, ils ont commencé par faire une espèce de vote sur tout ce qui s'est fait en télé pour faire un top 15, après ça un top 5. Donc, qu'on soit dans le top 5, c'est déjà extraordinaire pour moi. Puis c'est sûr que là, le show de police, il emmène large. Fait que... D'être dans le top 5, c'est déjà super.
Fait que tu me dis, bon, je m'attends pas à trop de
Ce serait une énorme
gloire.
Surprise. Très agréable, on s'entend.
Mais c'est déjà une petite gloire.
C'est déjà une grosse gloire d'être dans le top 5.
Oui. Et surtout que tu reviens donc avec...
Oui, dès lundi prochain.
Voilà. On va regarder. Mais ça nous donne l'occasion de parler des relations qu'on a avec nos parents, des relations qu'on a eues avec nos parents. Il y en a beaucoup qui n'en ont plus, d'ailleurs. Lise, toi, tu le dis, je viens d'une famille particulière, atypique, peut-être même à la rigueur dysfonctionnel, tu dirais?
Ouais, dysfonctionnel, c'est sûr que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais je pense que dans mon cas, c'est plutôt vrai.
Fais-toi-en pas, hein? T'es pas tout seul.
Oh non, ça, je suis certaine de ça. De bonnes personnes, des parents qui avaient de bonnes intentions, mais qui n'avaient pas peut-être pas vraiment ce qu'il fallait pour être parent, mais qui ont décidé assez tard dans la vie d'adopter une petite fille de 3 mois qui était moi. Et sous des apparences de famille parfaite, on pourrait dire que c'était une adoption ratée. Et c'est un niveau de difficulté supplémentaire parce que quand t'es adopté, à cette époque-là, on t'enseignait beaucoup la reconnaissance. Il fallait que t'allais être le bâton de vieillesse. C'est des choses
le
un
bâton
peu...
bâton de vieillesse, je peux te dire
bâton,
ça moi aussi.
Oui.
bon, j'aime mieux le dernier.
Oui, exact.
Ah, c'est ça.
Ah, c'est ça. J'aime mieux le bâton de vieillesse que de se faire battre, mais moi, c'était pas mon cas, là. Pas du tout. Comme j'ai des gens de bonnes intentions, mais...
Donc, t'as jamais été maltraité, mais c'était juste un manque d'amour.
Oui, vraiment. Manque d'amour ou des gens qui savaient pas comment
aimer,
qui savaient pas comment communiquer, qui savaient... C'était comme la famille du silence. Alors, tout était balayé sous le tapis. Et l'important, c'était de maintenir. Mes parents étaient un peu comme des gens connus dans leur communauté, qui avaient des postes. Ma mère était marguillère, bon, etc. Mon père, homme d'affaires. Alors, il fallait pas que ça dépasse et que ça paraisse. Et puis, ben, au milieu de ça, il y a une petite fille qui n'est pas trop sûre ce qu'elle fait là.
Ouais.
Et c'est ça. Puis,
toi, tu as été élevée dans Hochelaga-Maisonneuve.
Oui, j'ai été élevée dans Hochelaga-Maisonneuve.
Qui était à l'époque un... Là, ça change ouais, mais un ça, peu, même si ça change pas assez vite au goût de certains. Mais
écoute, je suis allée la semaine dernière...
Il y a beaucoup de gens démunis encore.
J'ai bien de la misère à parler d'amélioration. Ouais, c'est pas parce qu'on a 2-3 restaurants un peu branchés qu'un quartier est en santé. Là, c'est pas ça du tout. Mais dans Hochelaga-Maisonneuve, dans ce temps-là, on disait, je sais pas aujourd'hui, il y avait... En haut de la côte Pinneuf, donc au nord de Sherbrooke, où là, il y avait des maisons vraiment somptueuses, là, des trucs qu'on voit quasiment à
Outremont. Maisons de médecins et notaires.
Oui, voilà, exactement. Après ça, tu avais en bas de la côte. Alors ça, c'était la classe moyenne de Hochelaga-Maisonneuve. Moi, j'étais là. Puis tu avais en bas de la traque. Là, j'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Hein?
Ouais, ouais.
Alors, j'étais entre les deux.
Ouais. Et toi, François, quel coin? Tu viens d'où?
Québec.
Toi? Québec, c'est ça?
Quartier Saint-Sacrement. Mon père avait un commerce là, pendant 25 ans, une quincaillerie. Avant que je naisse, mes parents et mes frères et sœurs habitaient au-dessus du commerce. Là, je suis arrivé, il n'y avait plus de place. Fait qu'on y a acheté une maison juste sur la rue derrière la quincaillerie. Donc, comme mes frères et ma sœur, j'ai travaillé pour mon père. Tu sais, quand il y a un commerce dans la famille, tu travailles au commerce, hein, ça va de soi.
Ouais.
Ce que je détestais.
Est-ce qu'il te payait?
Il nous payait, oui. Techniquement, légalement, il nous payait.
Parce que dans la catégorie, il faut être gratifiant, tu sais, ce que Lise vient de dire, il faut remercier, il faut... Bon.
Autant j'haïssais ça, autant je suis reconnaissant qu'il nous ait inculqué ça dès l'âge de 14 ans, alors que, tu sais, bon, moi, j'étais un joueur de baseball, puis l'été, tu veux jouer avec tes chums dehors, là.
Fait que tu travaillais, toi, à la catégorie.
Ouais, tu comptes des vis, puis tu remplis des caisses de galons de peinture, c'est ce qui n'est pas vraiment ton choix numéro un, mais avec le recul, ça m'a énormément aidé à comprendre un paquet de trucs sur... la rigueur du travail, puis les choses bien faites, puis la valeur de l'argent, puis tout ça. Là, fait qu'avec le recul, c'était vraiment super de l'avoir fait.
Mmh. Tu vois, Lise disait que ses parents ne parlaient pas la maison du silence. Mmh. Toi, chez vous, en tout cas, si on se fie à la série, ça jase.
Ça jasait.
Parle au téléphone, ça jasait.
Par rapport à la communication parents-enfants,
oui?
Je ne sais pas,
comment
Lise,
c'était?
Qu'est-ce que tes parents ont vécu? Tes parents adoptifs ont vécu avant de t'avoir, eux, comme enfant. Mais moi, ce que j'ai compris avec les années, c'est que, tu sais, être parent, c'est pas... c'est une science inexacte.
Ouais.
T'apprends sur le tas, puis je pense que tout le monde est pareil. C'est que tu prends le modèle que tu as eu et tu tentes de l'améliorer d'une coche en essayant de combler ce que tu considères être des manquements. Mm. Mais peu importe ce que tu fais, tes enfants vont plus tard pouvoir dire « Ouais, telle affaire, tu l'as échappé » et tout ça. Et moi, mon père est né en 1929 et il était le plus jeune de 14 enfants. Donc, la communication père-fils à l'époque, c'était un peu de la science-fiction. En plus, le peu qui avait été divisé par 14 enfants. Et en plus, le père, vivait jusqu'à 60 ans maximum. Donc, lui a pris ça, puis la communication directe, c'était... Il était souvent mal à l'aise de dire des choses, des « je t'aime », tout ça, c'était pas, c'était pas lui. Là, il disait « je t'aime » à sa façon, en te témoignant par des gestes. Il fallait que tu déduises « ah, OK, ça, c'est sa façon de me dire ça
».
Mais une fois que tu as compris ça, en tout cas, moi, j'ai eu une plus grande acceptation des manquements qu'il y a pu y avoir. Là,
ouais, c'est très juste ce que tu dis sur l'expression des sentiments. Aujourd'hui, je pense que les nouveaux pères, même les mères aussi, c'est pas toutes les mères qui abreuvent leurs enfants de « je t'aime » et
de bisous,
c'est
sûr.
C'est sûr que chez l'homme, ça faisait moins partie de son ADN à l'époque, peut-être parce qu'on lui permettait pas aussi de faire ça. Tu sais, un gars qui était... il y avait tout ce qu'on disait sur comment un homme doit être homme à l'époque. T'sais. Heureusement, on a compris que t'es pas obligé d'être bête pour être
Et mon père, juste faire une accolade...
C'était quelque chose?
Oh, attends, qu'est-ce que tu fais là? On te poignait de main, là. On te donne une poignée de main.
Pourquoi? T'sais. La peur de...
Je sais pas. C'est comme le code d'éthique avec lequel lui a été élevé.
Des vrais gars, ça fait pas ça? Ça s'embrase pas?
À la fin de sa vie, quand je voyais que ça achevait puis que je voulais lui dire des affaires, puis que j'allais le voir, puis je savais que c'était peut-être la dernière fois à chaque fois. Fait que là, c'est l'accolade, puis le bec, ça joue, puis je t'aime. Là, c'était comme je le déstabilisais complètement. Là,
c'est toi qui lui... Et lui, est-ce qu'il répondait? Parce que t'as perdu ton papa, pour ceux qui
l'ont peut-être pas compris. Oui, sa réponse à ça, souvent, c'était le running gag, là, c'est que je faisais une accolade, je disais « je t'aime », puis il me disait « ah, t'es bien fin ».
Oh.
Ça, c'était sa façon à lui. T'es bien fin.
Il était touché par ça.
Oui, il était touché.
Parce que tu l'as perdu. Tu disais, il est né en 1929 et il est mort en février de cette année.
Exact.
Puis notre père, quand on le perd,
Ah, ben ça, c'est moi, j'ai été privilégié d'avoir aussi longtemps dans ma vie, là, tu sais, quand même, jusqu'à 90 ans. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, tu sais. Mais cela étant dit, quand ça arrive, ça reste ton père, tu sais.
Comment tu qualifies votre rapport, finalement?
Sain. Mon père était très protecteur, très de sa famille. Là, il aurait donné sa chemise, sa vie. Donc, à ce niveau-là, il a été vraiment super. Il nous a éduqués. C'était comme, tu veux aller à l'école, c'est moi qui paye. C'était important qu'on soit bien puis qu'on sorte de la maison droit, comme on dit, qui nous prépare pour ce qu'on allait affronter à l'extérieur. Et la maison, c'était une forteresse. Quand tu rentrais chez nous, il ne pouvait rien t'arriver de mal. Il a installé ce climat-là d'espèce d'ambiance familiale où tu viens te ressourcer, puis après, tu vas affronter le monde, si tu veux. Mais peu importe ce qui t'arrive, quand tu retournes chez toi, tu es comme un iPhone sur son chargeur. Là, tu refais le plein. Puis après, ben, t'es prêt pour affronter ce qu'il y a dehors. T'sais.
Wow! C'est loin de mon expérience. J'avoue, là, soyons clairs, je n'ai peut-être pas été non plus la petite fille idéale, en tout cas certainement pas la petite fille modèle que ma mère aurait aimé avoir. Je dirais, toute petite, moi, j'étais toujours habillée en crinoline, puis j'avais pas le droit d'aller jouer dehors avec les autres, puis j'avais une nounou française pour avoir un accent. C'est un gars Maisonneuve, là, OK? Okay. Là? On s'entend, là. C'est une... Quand ma mère était vraiment, vraiment fâchée contre moi, là, elle avait une espèce de rituel bébête, méchant même. Elle prenait le téléphone, puis elle faisait semblant d'appeler l'orphelinat pour savoir s'il me reprendrait.
T'es pas sérieux.
Mais ma mère, ce que j'ai su des années après sa mort, parce qu'elle est morte, j'avais 19 ans, elle avait 56 ans, je vivais en Europe, je l'ai pas vue avant qu'elle meure. Et j'ai su qu'elle avait été le produit d'une agression sexuelle.
D'un viol.
Et que sa mère, à elle, l'avait rejeté, évidemment. Évidemment, pas évidemment, mais elle l'avait rejeté à cause de ça. Et,
évidemment, à l'époque.
À l'époque, oui, c'est ça. Oui, oui, à l'époque. Et,
c'est une charge émotive.
Quand tu apprends ça, tout à coup, tu regardes toutes tes années difficiles avec ta famille J'ai été tellement bouleversée. Tout à coup, tout se plaçait dans ma tête. Là. Je comprenais maintenant pourquoi elle réagissait de telle façon et de telle façon et de telle façon. Elle avait été elle-même rejetée dans l'extrême. Et ça...
C'est ce que je disais tantôt. Hein, ils ont pris le modèle qu'ils ont eu et ils l'ont amélioré un peu. Puis,
exactement. Donc, moi, j'essaie d'être tendre face à tout ça en me disant... Pardonnez-lui qu'elle ne sait ce qu'elle fait. Dans ce sens-là, je pense que c'était vrai. Heureusement, je me suis réconciliée avec mon père. Parce que mon père, lui, c'était le genre, tu veux une fille? Ben, tu vas avoir une fille, mais moi, je m'en occupe pas.
Ouais, il voulait pas trop d'enfants.
Il voulait pas du tout, lui. Ouais. Il disait, puis ça, il me le disait après, quand j'ai su là, tout l'ensemble de l'histoire, il me disait, ta mère, elle avait pas ce qu'il fallait, émotivement, pour devenir mère. Mais elle a tellement insisté, elle voulait tellement, à un moment donné, ben... Alors, moi, pendant des années, mon père, c'était comme, il n'existait même pas. Et puis, finalement, ben,
lui, t'étais transparente, t'existais pas,
Je me rappelle pas petite, là, mais à un moment donné, oui, c'est vrai qu'on s'est un peu rapprochés comme c'était nous deux contre maman qui était toujours dans un état, soit colérique ou... Alors, ça a fait c'est toute une dynamique, même, à un moment donné. Elle m'a dit, bon, ben, dis-moi, je vais m'en aller. Tu es bien avec ton père, toi?
Finalement, c'est avec lui que tu t'es plus entendue.
Et finalement, écoute, je me suis occupée de mon père après le décès de ma mère pendant 26 ans. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas tout mauvais, tout ça. Là. Oui, il y a des blessures d'enfance. Il y a bien des années de thérapie. des années de thérapie. Mais je sais qu'avec mes filles, je sais qu'il y a des chaînes et des que j'ai brisées. Ouais, des choses qui étaient du passé, de ce passé-là, que j'ai réussi à ne pas transmettre.
Tu as dû avoir plein de témoignages, François, avec ta série, entre autres, qui a commencé par un post Facebook. C'est d'ailleurs, tu l'as raconté, que c'est d'ailleurs la popularité de ton post Facebook où tu racontais un peu...
Qui est devenu une série télé, puis qui, là, il faut faire plus qu'une saison. Donc, c'est... Ma grande surprise, c'est de voir que la famille, cette unité-là, Moi, je m'attendais à parler à des gens qui ont eu une famille ou un environnement à peu près similaire au mien. Et je me suis rendu compte, de par les témoignages que j'ai reçus, que ça rejoint des gens de toutes les générations, que peu importe, je vais vous phraser autrement, la famille, c'est ce dont tu ne peux te sauver. Que ça a été une famille extraordinaire ou que ça a été de la merde.
Ouais.
T'as beau faire tout ce que tu voudras, ça reste avec toi. Et donc, un show comme Discussion fait en sorte que peu importe ton passé, tes valeurs, ta religion, ton ethnicité, ton niveau social, ta relation avec tes parents, à quelque part, est toujours la même. C'est un mélange de confrontation de valeurs et d'affection. Puis tu valses là-dedans en essayant de trouver l'équilibre pour se tolérer puis s'apprécier. Puis si tu as la chance d'avoir tes parents longtemps, pas mal de choses se règlent. Moi, je peux dire que le lien avec mon père a été de loin plus fort et privilégié et intime une fois qu'il est arrivé à la retraite, donc après 75 ans. Là, on est devenu beaucoup plus proche, on se parlait beaucoup plus. Quand j'étais adolescent, évidemment, en ado, bon, t'es contre tout, hein? C'est pas
compliqué.
Tu veux
rien savoir.
Tu veux rien savoir de personne. Lui-même travaillait beaucoup, fait qu'il y avait un choc de valeur puis une absence physique qui faisait que ça cliquait pas. Mais en quelque part, tout ça pour dire que je pense que ce lien-là est plus fort que je croyais. La référence est plus forte. Et tu sais, quand je vais chez Costco puis qu'il y a une fille de 14 ans qui me dit qu'elle écoute la série, tu fais « OK, correct ». Puis le modèle de mes parents, l'espèce le père pourvoyeur, la mère à la maison, tout ça, alors que tout ça a éclaté maintenant, puis c'est des familles reconstituées, puis... Mais ça a l'air que ça parle aux gens quand même.
C'est ça qui est fascinant.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, entre autres. Merci François Morency d'être avec nous ce matin. Merci Alice. On va entendre vos témoignages sur les rapports que vous entretenez, si vous en avez encore, parce qu'il y en a qui en ont plus aussi, hein, avec vos parents. Peut-être ne sont-ils plus vivants non plus aussi. Je vais vous demander alors de nous raconter ce que vous en gardez de ces relations-là. C'est des relations, comme vient de le dire François Morency, qu'on garde toute la vie. Avec ce que ça sous-entend aussi, des bons puis des moins bons souvenirs. Nos numéros 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. On parle des rapports qu'on a ou qu'on a eu avec nos parents. Je suis en compagnie de l'humoriste, comédien, auteur François Morency. Lise Ravary, chroniqueuse chez nous dans l'émission de Paul Arcan, est avec moi également. C'est intéressant cette discussion aussi dans le contexte. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le débat avec l'auteur français Yann Moix et son fameux roman Orléans, parce que c'est le roman dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu, puis je pense pas qu'on va le lire, parce qu'en plus, là-dedans, il y a des descriptions assez violentes, apparemment, des sévices qu'il aurait subis dans l'enfance. Là, évidemment, on tombe dans la violence familiale, ce qui rajoute beaucoup à la complexité des rapports, vous comprendrez. Évidemment, l'histoire de Yann Moix, c'est plus compliqué parce que, alors qu'on lui donnait le Goncourt il n'y a pas si longtemps, sa famille a réagi, a nié tous ses propos en disant que c'était épouvantable de dire ces choses-là, que c'était pas vrai, que c'était plutôt lui le tyran dans la famille. Et en plus, on aurait coulé des écrits antisémites d'une certaine époque. Bref, c'est toute une histoire. C'est assez fascinant, c'est assez comique aussi même de regarder ça, même si c'est un peu pathétique. Mais c'est l'histoire sur la place publique d'une famille qui ne se supporte pas, ça c'est clair, puis qu'il y a plein de choses, plein de non-dits. Il y en a dans toutes les familles. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas être gêné d'être issu d'une famille dysfonctionnelle. Ça nous arrive à tous. J'en suis aussi. Sylvain, vous, c'est quoi votre histoire? Bonjour.
Bonjour, bon matin. Bonjour à tous. Bonjour aux deux invités. En passant, j'étais un fan de François. Et bonjour.
Vous aimez ça, discussion avec mes parents? Vous regardez ça, Sylvain?
Oui, j'adore son émission. Ça me touche de jusqu'à un certain point. Écoute, moi, ce n'est pas une histoire drôle, c'est plutôt un témoignage. Bon, moi, tu avais fait une chronique à un moment donné sur la violence, pas la violence, mais la correction des enfants. Puis j'avais dit pas de violence, aucune violence, on s'était parlé.
Ouais.
Puis bon, zéro violence, c'est pas la façon d'éduquer un enfant.
Ouais.
Moi, c'est sûr, bon, j'ai mon père et ma mère qui étaient égocentriques, qui n'ont pas su avoir des enfants. J'étais le black sheep, autrement dit, le mouton noir de la famille.
Le mouton noir, ouais.
C'est sombre un peu ce que je vais vous dire. Ça se dit en nombre. J'ai été séquestré pendant 70 ans dans le sol. J'ai tout obligé d'ouvrir les sacs de vidange, je me nourris occasionnellement. Battu continuellement. Mon père était policier, ma mère était... En tout cas, c'était un peu spécial. J'ai deux frères et une sœur. J'ai été classé dans un orphelinat parce qu'ils n'ont pas su s'occuper des enfants, de moi surtout. Foyer d'accueil, etc., etc. Mais moi, dans le fond, c'est pas pour me plaindre pour que je dise tout ça, là, mais c'est de persévérer. Tu sais, il y a des gens qui sont dans la drogue, dans la boisson, dans toutes sortes de choses. Et, tu sais, Moi, je me suis retroussé les manches, mais je me suis dit, bon, ben, j'ai pas de parents, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je m'en sorte. j'ai eu cette réaction-là. Et ça vous, c'est ce qui m'a sauvé, Isabelle, tout le restant de ma vie. Ils se sont divorcés, ça a été le bordel dans la maison. C'est de ne plus avoir de relations toxiques avec mes parents.
Voilà, c'est ça.
Parce que y en a qui disent.
Est-ce que vous êtes vous-même un père aujourd'hui?
Non, François, ben, ça n'a pas donné, ça aurait pu arriver, puis j'adore les enfants. Mais tout ça pour dire que, tu sais, des gens qui pardonnent à leurs parents, comme tu as parlé de l'émission qu'on avait parlé de la violence, de la correction des enfants.
Ouais.
Mais tu peux pas pardonner à deux bourreaux, ça marche pas.
Ouais.
Et quand j'ai eu zéro relation humaine, amoureuse ou d'affection ou de protection, on parlait de sécurité quand on s'est parlé l'autre fois, ben, si t'as pas ça, ça te donne quoi? Puis moi, ça va me rappeler trop de mauvais souvenirs, tu comprends? Fait que moi, j'ai réagi de cette façon-là, j'ai coupé la relation, puis à 33 ans, j'étais allé voir mon père et ma mère, j'ai vu la réaction, tout ce que j'ai vu, c'est une de mes dons, je me suis convaincu de faire ça, tu vas aller voir. Bon, je l'ai fait, j'ai été devant deux personnes qui étaient complètement dans le déni.
Complètement. Ah, c'est fascinant, ça.
Ouais. Ça, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, ils ont été très, très violents, les deux. Là. Un pour ça, un derrière l'autre. Puis ma mère me menaçait quand le père va arriver. Puis il était dans la police, puis 250 livres, puis avec la strap, on se touche pas. Ouais. Donc, ce que je veux dire, je ne rappelle pas pour attendrir les histoires.
Je comprends, Sylvain. Mais après,
ce que je veux dire, c'est un témoignage de courage, de dire, là, quand j'ai un métier, je gagne ma vie, tu sais, on parle des fois. Tu sais, il faut que tu te retrousses les manches, faut pas que tu sombres dans le dog de la boisson, c'est pas trop facile. Mais, tu sais, il faut que tu aies une attitude positive, faut que tu te retrousses les manches, puis, tu sais.
Ce que vous dites, Sylvain, c'est qu'on n'est pas obligé de tout accepter de ses parents, et dans votre cas, évidemment, c'est l'extrême, ça. Je parlais de Yann Moix, et ce qu'il écrit dans son roman Orléans, là, où il décrit des choses épouvantables qu'on lui aurait fait subir. Bon, la famille dit que c'est pas vrai, mais, tu sais, en même temps, moi, je l'ai pas lu son livre, mais je vais le lire juste parce que je veux voir jusqu'à quel point on peut le croire. Et je me dis, quand t'as autant, puis c'est quelqu'un qui a... C'est un chroniqueur acerbe, là. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis, là, parce qu'il est vraiment...
Il est pas l'air très sympathique.
Il est méchant, il a pas l'air fin, comme tout le temps de mauvaise humeur. Tu te dis, ça doit bien venir de quelque part, ça, tu sais. mais je comprends tellement ce que vous dites. Et parfois, il y a des relations toxiques, que ce soit avec nos parents ou avec des amis ou avec des collègues. Il faut mettre un terme à ça. On n'est pas obligé de supporter des gens toxiques.
Chose importante, Isabelle, avant de te laisser, chose importante, il ne faut pas se sentir coupable de ne pas pardonner à nos parents. Ça, c'est bien important. Il y en a qui ont les sentiments de culpabilité qui s'obligent à le faire, puis ce n'est pas une bonne idée pour eux autres, pour leur avenir, pour leur équilibre
mental. Merci, Sylvain. Restez à l'écoute, restez en onde, on va prendre vos coordonnées. Merci beaucoup, Sylvain. Joanne, bonjour. Quels sont les rapports que vous avez ou avez eus avec vos parents?
Bonjour. Moi, honnêtement, j'en ai un petit peu marre d'entendre tout ce monde-là se plaindre à tout le temps. Mon père, il a fait ci, ma mère, il a fait là. Mais mes parents, c'est pas les meilleurs parents du monde. Mais honnêtement, Isabelle, j'ai une excellente relation avec eux autres.
Mm-hmm.
C'est peut-être parce que moi, je viens d'une autre culture, puis ma mentalité est peut-être différente, c'est ce que les gens m'expliquent. Mais franchement, les gens exagèrent. Moi, je me dis... Quand moi, je suis parent en ce moment, OK? Puis quand on a un enfant, ça vient pas avec une notice, c'est quelque chose comme pour nous montrer. Un parent, ça vient avec l'amour, OK?
Mm-hmm.
Il fait ce qu'il peut pour aimer et éduquer cet enfant-là comme il se doit. Okay?
Mais Joanne, êtes-vous d'accord? Puis je comprends quand vous dites les enfants, ça vient pas forcément avec d'un bon emploi. Même si par les temps qui courent, on aurait envie d'en donner un, par exemple, il pourrait y avoir comme recommandation ne pas laisser traîner dans la voiture l'été. T'sais. Parce que là, ça se peut pas, là. Si vous allez vous saouler la gueule dans un bar, ne pas laisser votre enfant de 4 ans dans la voiture. Il va falloir qu'on mette des... Ah, peut-être falloir qu'on fasse un mode d'emploi du genre, si ça continue, le monde a comme pas d'allure. Là.
Oui.
Mais je sais pas, vous dites, on exagère un peu. Je sais pas jusqu'à quel point on exagère.
Les enfants, par exemple, moi, je trouve que les gens en font un petit peu trop.
Ouais.
Honnêtement, moi, c'est ce que je pense. Les gens, on dirait qu'on est dans la mode de, oh, je dis que je suis un enfant maltraité, puis j'aurai la pitié du monde. Moi, c'est ce que je pense.
Ouais. Vous pensez que les gens se mettent trop comme victimes?
Trop comme victimes, exactement.
Merci.
Les parents. OK, merci beaucoup.
Merci, Joanne. On doit aller à la pause. On va revenir avec la réaction de François Morancy là-dessus, de Lise Ravary et vos commentaires au 514-790-9850.
Oui, allô?
Allô?
Hey, puis, aimes-tu ton nouveau condo? Beaucoup.
Trois déménagements en 3 ans. Ça n'a pas de sens.
La première fois, ils trouvaient que la toilette était trop proche du bain.
C'est 2 bassins d'eau différents, ça prend une distance minimale.
Et t'sais. Voilà. Bon. La fois suivante, c'est parce que le jour, t'as trop clair, puis le soir, t'as trop noir. Et cette fois-ci...
Mais les boutons de l'ascenseur étaient souvent sales. Puis c'est un building où le monde a une mauvaise hygiène de doigts. Puis moi, ça me...
Jésus! Il sera jamais content. Penses-tu qu'on a échoué en tant que parents?
Non, je pense pas. Les deux autres sont très équilibrés.
Es-tu sûr?
Raccroche, on va les appeler.
François Morin, c'est un extrait, bien sûr, de Discussion avec mes parents. La saison 2 va être diffusée dès lundi soir, 9 septembre, à 19h30, tout de suite après District 31. Et il y a des projets pour une 3e saison, donc ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Ça va très bien. Les parents sont une bonne talle.
Les relations familiales,
c'est ça. Mais tu sais qu'au Québec, un grand succès, c'est celui de Jeannette Bertrand de l'époque. C'est Quelle famille?
Oui.
Hey, on regardait ça.
La petite vie.
On était dans le burlesque, mais c'est la famille quand même.
Exactement. Fait que finalement, on aime les séries de famille.
Oui.
Mais inépuisable.
Aux États-Unis aussi, un show qui s'appelle Modern Family,
qui
marche très, très, très fort. Je pense qu'ils sont rendus à leur 10e saison, qui justement a fait une espèce d'adaptation de tout ce qui est un modèle éclaté. Donc, un gars beaucoup plus vieux avec une fille beaucoup plus jeune. T'as un couple homosexuel. T'as un mélange ethnique. T'as de l'adoption. T'as un paquet de choses. Puis tout ça dans la même famille. Et sur une chaîne généraliste, à heure de grande écoute, ça a été un geste, connaissant le côté puritain des Américains parfois. C'est un grand succès malgré tout, donc bravo.
Est-ce qu'il faut que ça soit... Toi, c'est de l'humour quand même. Bon, évidemment, il y a des situations qui sont inspirées de ta vie.
De la vraie vie. Il y a des moments de tendresse quand même, mais on parlait tantôt de la communication père-fils et de l'adaptation que mon père a fait par rapport à ce que lui a vécu. Il y a une scène dans la première saison qui est calquée sur un vrai événement, c'est-à-dire que mon père, sans que je le sache, pendant des années, découpait tous les articles où on parlait de moi, puis il faisait des scrapbooks sans me le dire. Puis à un moment donné, je l'ai découvert, puis c'était comme sa façon à lui de me dire « Hey, j'admire que tu fais, bravo, je suis fier de toi », mais il n'était pas capable de le dire. Mmh. Fait que là, je dis « Ah, tu fais ça ?» Puis il a tenté comme d'amoindrir, tu sais, comme en gaga, là. « Ouais, je découpe ça, là, de même, là, tu sais. » Mais tu sais, je savais très bien, je lisais son âme, là, finalement, là, dans ses yeux, là, puis... C'est pour ça que tu comprends après d'où il vient. Puis là, tu fais, OK, lui, c'est jusque-là qu'il peut aller. Tu sais. C'est ça, sa façon.
Après la quincaillerie, là, est-ce qu'il a pensé que peut-être... toi, tu étais le petit dernier. Donc, est-ce qu'il y a personne qui a repris la quincaillerie? Elle a été vendue?
Il y a un de mes frères qui est devenu mécanicien, qui lui, était très habile de ses mains, qui aurait peut-être pu prendre le relève, mais il n'était pas intéressé tant que ça.
Toi, ça ne t'intéressait pas?
Non, zéro open bar.
Est-ce que tu as dit... Comment c'est venu, l'humour, là? Comment t'as présenté ça à papa et maman?
C'est arrivé quand j'étais étudiant à l'Université Laval. J'ai fait un bac en journalisme et il y avait de l'impro à ce moment-là. Tout le monde faisait de l'impro.
Ouais.
C'était comme l'impro du dimanche soir à Télé-Québec. On voulait être Robert Gravel.
Oui, c'est ça.
Puis c'est là que, ma génération d'humoristes, on est tous nés à l'impro. Moi, Courtemanche, Martin Petit, on est tous nés là. L'humour n'était pas l'industrie qu'elle est devenue.
On a grandi avec la LNI, là.
Oui.
C'est clair, ça nous a beaucoup marqué. Parce que moi, j'étais drôle, j'étais en théâtre aussi à ce moment-là, puis on voulait tous faire partie de la LNI. Là. Mais donc, ton père a bien pris ça? Ta mère a bien pris ça?
Tout à fait, mais...
Pour eux, c'était une job, là.
Ils étaient comme n'importe quel parent craintif que leur enfant se plante ou que ça fonctionne pas, tu sais, parce que c'était... Ça prend une job avec une sécurité, puis mon enfant, il est bien placé, puis il est correct. Tu sais.
Quand tu es une fille, il y a une variation à
J'imagine.
Ça. Moi, ma mère, c'était son obsession dans la vie, c'était que je marie quelqu'un de riche.
Ah, arrête donc!
OK, c'est même pas « tu vas réussir ».
Non,
c'est...
mais mon père, lui, c'était « tu vas réussir, mais pourquoi tu ne te prends pas une job dans la fonction publique? »
C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une sécurité.
C'est ça,
ils veulent ne pas avoir à mal dormir pour toi, ce qui est très légitime.
Ou ils veulent le meilleur.
Ils veulent le meilleur, je pense.
Fait que ça selon c'est l'amour vision. D'une certaine façon.
Oui, c'est, ils veulent ta sécurité. Ouais. Tu sais, même ma mère, là, pour elle, c'était une sécurité que je marie quelqu'un de riche. Là. C'était pas question de standing social. Oh non, mais j'en ai rencontré. Oh là là, les agrès qu'elle m'a présenté. Oh boy!
parce qu'elle voulait te matcher avec ses choix à elle.
Ah ben, oui, mais c'est sûr, il fallait que ça soit approuvé.
Okay. Mais c'était maman. Ça, Lise, c'était pauvre le reflet maman. D'une époque aussi.
Bien sûr. Puis pour elle avait des ambitions sociales. Elle venait d'en bas de la traque, de Chicago-Maisonneuve.
Ouais.
Puis elle avait des ambitions sociales, puis c'est correct. Ma mère a toujours voulu, elle allait au théâtre, puis elle essayait de s'améliorer, si on peut dire. Puis elle voulait que sa fille, ça m'envoyait dans des très bonnes écoles, les pensionnats, etc. Mais c'était toujours comme C'était pas nécessairement pour mon émancipation à moi.
C'était pour pas que t'aboutisses en bas de la traque.
C'est ça. Ouais, ouais. C'est mais ça. Qui était dans un geste d'amour aussi.
Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tu peux se parapluie. Sur le coup, tu le comprends pas, mais avec les années, tu comprends avec le recul ce qu'ils ont voulu vraiment faire et la signification des paroles.
La preuve qu'il y a des avantages à vieillir. Ouais. On comprend des affaires.
C'est intéressant. J'ai plein de témoignages. J'ai Benoît qui me dit, comme toi, là, comme pour François, son père était plutôt poignée de main, plutôt qu'accolade avec ses 5 enfants. Personne n'en a été affecté parmi nous, toutefois. 2 filles, 3 garçons. Le problème vient sans doute de... qu'on peut être affecté par ça. Là. Benoît, il dit, moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je comprends qu'il y en a que ça puisse déranger. Comme toi, tu disais...
Ben, oui, c'était comme ça, moi, le déstabilisait. Ça. Ouais, ça le déstabilisait, juste dire je t'aime, tout ça, c'était... Mais ça s'apprend, ces choses-là. Hein,
c'est ça. Ça. On a Jean avec nous. Bonjour, Jean.
Bonjour, Isabelle, ça va?
Oui, on vous écoute.
Oui, salut, François aussi. Salut.
Bonjour.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai une relation vraiment amour-haine avec mes parents.
Oui.
Quand j'étais jeune... Mes parents avaient un bureau de courtage. C'était tellement centré sur le travail qu'il n'y avait pas de dialogue. J'arrivais de l'école au secondaire, puis ça s'assinait sur les problèmes du bureau. Ils avaient une bonne ambiance de jasette, comprenez-vous? Oui. Là, maintenant qu'ils sont retraités, ils ont vendu la maison, ils ont vendu le commerce, ils sont en résidence à Laval. Puis là, ils m'appellent, « Jean, on n'a pas de nouvelles. Jean, on n'a pas de nouvelles. On va avoir des nouvelles. » Avant, c'était le contraire. C'est bizarre. Puis là, la vie
ouais.
Puis en tout cas, puis ça sont. Puis
mais pourquoi jamais... vous pensez il veut de vos nouvelles parce qu'il s'ennuie de vous ou parce qu'il est tout seul ou les deux?
Ben c'est parce que écoutez, ils sont pas jeunes. Ma mère va avoir 90 ans en octobre.
Ouais,
mon
ça.
Père 89. Puis là, ils savent que la vie achève. Mm. Puis ils savent aussi peut-être, je sais pas. Là je présume une chose, c'est qu'ils n'ont pas toujours été corrects avec moi. Ils savent peut-être, ils reconnaissent peut-être leur culpabilité avec la relation avec moi. Puis moi, j'étais pas le genre de personne à dire, dans le temps, ben, c'est pas demain que ça marche, ben, je vois pas. De toute façon, mon père était très autoritaire, et c'est ça. J'aurais pas pu. J'ai pas un caractère, vraiment, qui s'exprime tant que ça devant mes parents. Ouais. Je vais être le gars doux, puis bon, oui, tout est correct. Puis ouais.
Merci beaucoup, Jean. Bonjour, Diane.
Bonjour. Alors, je suis contente d'avoir entendu tous ces témoignages-là, parce que moi, j'ai envie de faire le contraire. J'ai envie de vous faire une douceur. J'ai envie de vous dire qu'avec mon papa, que j'ai connu sur le tard, en fait, je l'ai connu toute ma vie, mais que j'ai appris à apprécier à partir de l'âge de 75 ans, il est décédé il y a 2 ans. Mais on a eu la chance de l'accompagner. C'était très court, sa maladie. En dedans d'un mois, il était parti avec un cancer.
Wow.
Et tous ses enfants, on était prêts, mais on était prêts à distance puisque c'était un gros bourru. Il chicanait, il barbotait, maudit gouvernement, il y avait toujours quelque
chose. C'est un Québécois chialeux.
Un bougonneux.
Comme c'est rare.
Un bougonneux.
Un beau bougonneux.
Mais sympathique, un sympathique bougonneux.
Oui, mais en fait, pas toujours sympathique.
Pas toujours, bon, OK.
Les gens qui le connaissaient pas, c'était pas toujours sympathique. Mais nous, dans l'autodérision, on l'a amené à devenir moins bourru. Mm. Et son bourru est devenu comique.
Mm-hmm.
Mais tout ça pour dire que quand il était à sa dernière journée, on a tous eu, mon Dieu, je vais pas pleurer. Quand on était la dernière journée, ses enfants, les 5, on était là. Et il nous a pris la main, puis il nous a regardé et dit, je veux juste vous dire un petit quelque chose. Il dit, j'espère que j'ai été un bon papa.
Mm-hmm.
Il dit, même si je vous ai parlé fort des fois, j'ai eu tellement des bons enfants.
Wow.
No.
C'était une magie. Il est parti. Ses 2 fils, chaque côté du lit, lui tenaient la main.
Mm.
Et c'est, moi, j'oublierai jamais ça. Mon papa était qui il était. Je l'ai aimé et détesté, mais détesté d'amour profond. Je disais tout le temps ensuite, je l'aime à mort.
Ouais, c'est sûr. Ben merci, c'était Diane, pour ce témoignage fabuleux. Vraiment. Oui, vraiment, c'est beau. Mais c'est vrai aussi que même parfois, quand on a eu des rapports plus ou moins chaotiques avec nos parents, vers la fin de leur vie...
Ben eux veulent rattraper le temps perdu. Ils se rendent peut-être compte
qu'il
faut que ça vienne d'eux, évidemment. Puis toi aussi, si tu as vécu ça en tant qu'enfant, tu peux vouloir passer à autre chose. Tu peux vouloir tourner la page, puis tu sais, traîner de la rancœur, puis traîner de la haine.
T'en as eu quand même, toi, pour tes parents?
De la haine, non.
Non, mais de la rancœur sur certaines affaires.
On ne s'entendait pas sur tout, évidemment. Il y a des choses...
Pourquoi vous vous entendiez pas?
Ce qui est arrivé, c'est que mon père, quand il a vendu le commerce, il est tombé en politique municipale. Il était le bras droit du maire de Québec de l'époque, Jean Pelletier. Et là, il était était zéro, là. Il était zéro présent. Mm. Alors que moi, j'étais comme fin ado, début jeune adulte, là où...
Tu avais besoin d'être recadré.
Je n'aurais peut-être plus besoin, c'est ouais. ça. Fait que là, on s'est perdu parce qu'on ouais. on se parlait pas, on se voyait pas. Et s'il y avait par malheur fallu qu'il décède à ce moment-là, j'aurais pas du tout le même souvenir, le même rapport avec mon père que j'ai eu par après. Donc, ça fait partie du processus de dire, OK, il est arrivé ça, mais sais-tu quoi? Ça me tente pas de traîner ça toute ma vie. Ça me tente pas de... Mm. Quand je veux penser à toi, je veux me souvenir des belles affaires. Mm. Ça, à un moment donné, c'est un choix personnel aussi, autant du parent que de l'enfant, de dire,
sais-tu
quoi?
Il
est arrivé ça, mais...
Mais c'est
il y a des choses
parents.
Plus faciles à pardonner. Je suis d'accord avec toi, tu sais, que des sévices corporels, tout ça, là, j'ai jamais vécu ça. Mais je peux facilement comprendre que les gens qui l'ont vécu de façon agressive et répétée doivent dire, hey, sais-tu quoi, là? Bon débarras, là. Je peux le comprendre.
C'est ça. Et ça doit être le parent qui revienne. C'est le parent qui doit revenir. L'enfant, même adulte, reste toujours l'enfant. Moi, je pense que c'est aux parents à faire le pas.
C'est vrai, puis ça, ce que tu dis là me ramène à... moi, j'ai pas pu faire la paix avec ma mère avant qu'elle meure parce que je vivais en Angleterre, parce que je me suis poussée de la maison assez jeune, merci. Puis loin.
C'est ça, il y en a qui font ça.
Je suis partie loin. Et malheureusement, pendant que j'étais là-bas, elle a eu un cancer. Et il y a eu comme une décision d'omerta dans la famille, ses sœurs, des mecs de famille bien particulière. Mon père n'était pas vraiment là-dedans, mais d'omerta. Et ils ont décidé que comme j'avais été une enfant difficile, que je ne la verrais pas avant de mourir.
C'est épouvantable. Ouais.
Et
t'es un enfant difficile parce que t'as quitté?
Entre autres.
Parce qu'elle devait être un petit peu rebelle.
C'est un peu rebelle.
Mais tu sais, on a tout été un peu rebelle.
Évidemment.
Ben oui. Ouais. Tu veux pas des enfants. Exactement. Tu veux des enfants qui
s'expriment. Comme, non, tu verras, tu la verras pas. Ouais. Elle veut pas te voir de toute façon.
Fait que ta mère a jamais fait le pas vers toi. Jamais tendu
la main. Non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Puis en plus de ça, mon petite affaire, elle est morte pendant que j'étais dans l'avion pour rentrer. Ouais. Je ne l'avais pas vue depuis comme de longs bouts de temps. Fait que, tu sais, tu dis, là, ça, c'est vraiment là, la totale. T'sais. Je l'amène jusqu'à sa fin illogique, dans un sens.
Et que ça aurait été jusqu'à la fin.
Ben, ouais, ben, des
Est-ce que tu lui en veux d'être morte avant même que tu arrives?
Ça, oui. C'est irrationnel, hein? C'est très irrationnel, mais ça, c'est comme, hey, là, franchement, là, tu pousses un peu. Mais je lui ai
Est-ce que tu lui parles des fois aujourd'hui?
Ah oui. Je vais à sa tombe aux anniversaires, pas chaque année, mais souvent. Puis je lui parle, puis j'ai déjà parlé rough, puis j'ai déjà parlé en pleurant. Puis j'aurais aimé que ça se règle avant qu'elle parte, mais bon, ben, c'est ça. Mm. Et pour ça, c'est important de dire, faut pas traîner ça toute sa vie.
Mm. Exact.
Il faut tout faire pour s'en libérer.
Ne serait-ce que pour soi-même. Là.
Ah ben oui, c'est, pour survivre.
Parce que traîner de la haine, là, ça t'amène nulle part.
Non, c'est toxique, corrosif.
On revient après la pause. On parle des rapports qu'on a eus avec nos parents, puis je pense qu'on a autant de témoignages différents que de familles différentes qui peuvent exister au Québec. Puis ce qui est intéressant aussi, je suis en compagnie de François Morency, qui a écrit la série Discussions avec mes parents. Il y a le livre aussi, mais qui a amené la série.
Exact.
Mais il y a surtout cette série qui va commencer la semaine prochaine, saison 2. Et évidemment, avec nous, Lise Ravary, qui parle de son expérience douloureuse. Avec tes parents,
douloureuse.
Pour toutes sortes de raisons. C'est la famille traditionnelle aussi, c'est ça. On a évolué beaucoup, ça a changé. En même temps, j'ai Martin qui dit, moi, quand mon père me serrait la main, il regardait toujours ailleurs. Aujourd'hui, moi, j'essaye comme papa de montrer mon amour à mon gars, mais il me dit qu'il aime pas ça, que faire?
Mais ça, François? C'est classique. Écoute, n'importe quel ado que genre son père va te conduire à l'école... puis que tu ouvres la porte et dis, hey, je t'aime. Oh, c'est correct. Tu veux pas que tes chums entendent ça. Là,
mais continuez de le faire, Martin.
Exactement, oui.
Parce que votre fils, là, il doit avoir 15-16 ans, peut-être 14, ça dépend des enfants. Des fois, ils sont plus précoces que d'autres, mais
c'est un jeu, des fois, pour les parents aussi, de gêner leurs enfants.
Ben, c'est
fun,
ça.
C'est comme les enfants qui voient leurs parents s'embrasser puis qui vont, ah, dégueulasse.
Ouais,
mais dans le fond, ils adorent ça.
Exact.
Ils ont besoin de voir l'amour dans les parents.
Absolument. Ça, c'est tellement important.
Oui.
Grandir avec une image de l'amour, ça existe. Je vois mes parents.
Ouais.
Ben moi, j'ai appris après. Là.
Qu'ils s'entendaient pas bien?
Non, parce que tout était en apparence.
C'est ça.
Mais j'ai fini par comprendre, plus vieille, que non. Non seulement ça, mais j'ai appris en plus qu'ils avaient chacun de leur côté des activités...
C'est drôle parce que...
Y a... ah, des loisirs.
Des loisirs.
Extra-curriculaire. Extra-curriculaire, exactement.
J'ai Hélène qui m'écrit, son père a 93 ans. C'est drôle parce que là, il y a de plus en plus de parents qui vieillissent.
Oui.
Puis, fait, c'est le fun, je trouve, d'avoir tes parents longtemps. En tout cas, je trouve que c'est le fun pour nous, parce qu'on va vieillir. On va avoir, moi, il doit bien nous rester du temps quand même.
Ah ben, moi, hein? Certain. Puis on voit
avec
ça,
nos
puis
enfants.
C'est réjouissant, ça dure longtemps.
Elle dit, ça fait depuis 20 ans qu'il me dit « je t'aime ». Donc, son père, vers 73 ans, a allumé, un peu comme ton père,
ouais,
finalement, François.
Il y a eu un switch.
Et que là, il dit, elle dit, il y a une blonde extravertie. Lui, il est plus conservateur. Fait que je pense qu'il a compris sur le tard que c'était important de dire « je t'aime ». Là, elle dit le plus drôle, c'est qu'en vieillissant, là, il n'y a plus de filtre. Hein? Mmh. Ça vient avec la vieillesse aussi. Mmh. Là, il dit tout ce qu'il pense. Là, il me dit « mon Dieu, t'es belle, ta peau est belle, le chat est beau. Tout le monde est beau. » Elle dit « c'est trop cute. »
C'est beau, ça?
Elle dit « non, le chat de ma nièce, il est laid. Le chat, il n'est pas beau. Mais toi, t'es belle. » C'est bon. C'est mieux ça que l'inverse.
Oui. Si tu passes en arrière du chat, normalement, c'est pas de bonne nouvelle.
On a Samia avec nous. Bonjour, Samia.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, c'est ça. J'ai eu des complications avec mes parents jusqu'à l'âge de 14-15 ans.
Ouais.
Aujourd'hui, ils m'aiment, ils m'acceptent. Mais moi, je suis née avec un handicap. Puis, j'ai une petite sœur aînée. Elle est normale, mm-hmm. comme tout autre enfant. Puis moi, j'ai toujours été mal aimée. C'est moi la plus niaiseuse. Tu feras jamais rien dans la vie. T'es une handicapée mentale. Puis à l'école et tout, c'était pareil. Le monde me rabaissait tout le temps. Je revenais à la maison. Ma mère, elle me posait pas de questions sur l'école. C'était plus... tu feras jamais rien comme... toi, ta sœur va être plus intelligente que toi. Ta sœur va avoir une bonne job. Toi, tu travailleras pas. Tu vas être tout le temps sur l'aide sociale. Puis y a
mon
pas
Dieu,
personne
c'est épouvantable, ça. Ça a fini par vous rentrer dans la tête ou vous avez réussi à vous préserver de ça quand même, Samia?
Mais moi, ça m'a rentré dans la tête, veux pas. Là,
c'est
parce
sûr.
Que cette maladie-là, je l'ai jusqu'à temps que m'a mourir. Mais qu'est-ce que je trouve malheureux, c'est que j'avançais plus. Je n'ai plus rien savoir d'école, plus rien savoir de la famille, mais de ma mère. Puis moi, mon père est décédé, j'avais 4 ans et demi. Puis quand que ma mère elle a dit que c'était une petite fille qu'elle attendait, mon père a été sous la face. Parce que lui, il voulait pas avoir une autre fille, il voulait avoir absolument un gars. Fait que j'ai appelé mon oncle, lui, il est travailleur social et psychologue, qui est maintenant rendu au ciel aujourd'hui. Puis il m'a hébergé chez eux pendant 3 mois et demi, 4 mois. Pour me faire pleurer, me faire vider, m'aider, parce que je voulais vraiment me tuer, je voulais mettre fin à ma vie. Puis ma mère, après 4 mois, voulait venir me chercher. Puis moi, je voulais pas partir. Puis mon oncle me dit, Samia, si tu as besoin d'aide, rappelle-moi, m'a t'aider. Puis c'est grave.
Et c'est ça qui est important, Samia. On doit terminer ici. Malheureusement, on aurait pu faire une heure de plus, parce que sincèrement, il y a plein de gens qui veulent témoigner. Si on veut rester dans la lumière à la fin de cette discussion, je pense qu'il faut se dire aussi qu'à un moment donné, il faut trouver, si tes parents font pas la job, il y a certainement quelqu'un dans l'entourage qui peut peut-être être rassurant, qui peut peut-être être une encre.
Il faut que tu t'affranchisses de leur jugement aussi.
Voilà, c'est très bon. Merci, François Morancy. Discussion avec mes parents lundi soir, manquez pas ça. Merci, Lise.
Merci.
Merci, bye.